crois me souvenir, je suis à peu près sûre que ça doit être en 1936. Je venais de faire mes tout débuts à la radio, un poste qui s'appelait à ce moment-là le poste parisien. Et c'est donc certainement par l'intermédiaire de la radio que j'ai dû faire sa connaissance.
Mais la connaissance de qui ? En avril 82, à la télévision, Claudine Chenez évoquait ses souvenirs avec Colette. Près de 50 ans auparavant, la femme de radio avait croisé la route de la célèbre romancière. Bonjour et bienvenue dans cette 13e visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com. Cette semaine, seconde visite à Colette que l'on entendra longuement cette fois. Pour l'heure, retour en 82 avec Claudine dans l'émission « Et mon tout est un homme ».
Je pense que peut-être le fait que je m'appelle Claudine, mon père adorait Colette et il avait voulu m'appeler Claudine en l'honneur de Colette, ça a peut-être joué un rôle parce que j'étais naturellement, je débutais complètement inconnue et elle a tout de suite accepté pour une émission qui s'appelait « La demi-heure de Colette » que je fasse la critique des livres.
Allez, un premier souvenir de Bette, commençons avec son chien.
Elle m'a raconté une histoire, elle l'a peut-être reprise dans un de ses livres, puisqu'elle concerne le célèbre Toby Chien, qui était son chien chéri, mais ça, elle me l'a raconté à moi-même. Il paraît qu'une fois, elle l'avait abandonné, elle l'avait laissé très solitaire, et elle s'en accusait, et elle revient, elle le trouve au bout de l'allée du jardin, absolument, mais elle l'avait abandonné des jours entiers, immobile, il paraît qu'il restait là planté des journées entières, à attendre qu'elle revienne. Et il a été tellement, si vous voulez, traumatisé par son apparition soudaine, qu'au lieu de courir vers elle comme font la plupart des chiens affectueux, etc., il s'est détourné et il s'est mis à vomir.
À fréquenter le chat, on ne risque que de s'enrichir. Serait-ce par calcul que depuis un demi-siècle, je recherche sa compagnie.
Visite privée sur France 2, début décembre 2016, va dans la maison natale de l'auteur à la rencontre de Frédéric Maget, président de la Société des Amis de Colette.
Le chat est en fait la seule constante dans la vie et dans l'œuvre de Colette.
Vraiment, les chats, on les retrouve depuis les premiers textes jusqu'au dernier, hein, avec évidemment des évolutions. Elle se fait connaître au départ par les fameux dialogues de Bette, donc ça s'est publié en 1904. Dans ces textes, elle prête la parole aux animaux, en quelque sorte, donc il y a quand même une forme d'anthropomorphisme.
Et donc dans Dialogue de Bête, on se rend compte que les animaux qui sont mis en scène sont ces vrais animaux également dans la vie.
Oui, elle n'a pas besoin de la fiction, puisqu'il lui suffit de prendre les animaux qu'elle a sous les yeux, sauf qu'elle rajoute une dimension tout à fait piquante, c'est qu'elle se sert également du surnom qu'elle avait donné à son premier mari, Willy, qu'elle avait surnommé la Doucette, hein, et donc le chat devient Kiki, la Doucette, hein, malgré ce nom aux consonances féminines, c'est le nom d'un chat masculin et qui assume tout à fait dans les textes sa virilité et sa masculinité.
Kiki, mais aussi Mignonne ou Toune, Colette aura quantité de félins. Sa passion est sans limite. Elle ira même jusqu'à adopter un chat sauvage, Batou.
Il y a un chat qui a particulièrement compté dans sa vie. C'est le tout dernier.
Ce qui est fascinant dans le cas de Colette, je ne pense pas qu'on puisse le dire de beaucoup d'écrivains, c'est qu'on peut presque faire la biographie de tous les animaux de Colette, puisque Colette en parle tellement qu'on sait énumérer, donner leur nom, leur ordre. Et alors dans le cas de la dernière, qui va vraiment être la préférée, à qui elle ne donnera pas d'autre nom que la chatte, qui va devenir ça dans le roman éponyme, eh bien, on est même capable de donner sa date de naissance, 25 décembre 1925, et sa date de mort, le 12 février 1939. Après elle, elle fera le choix de ne plus jamais avoir d'animaux et ne plus jamais avoir de chats, puisque à ses yeux, aucun chat ne pourrait la remplacer dans son cœur. C'est difficile de comprendre le lien qui se crée d'un seul coup avec un animal en particulier parmi d'autres. Pourquoi elle ? Ça, l'une et l'autre sont parties avec ce mystère.
En 1950, un autre homme de radio, André Parrino, mène de longs entretiens avec Colette. Premier extrait.
Vous écrivez d'ailleurs « Je sais mieux choisir maintenant et je veux libre autour de moi la vie des plantes et celle des bêtes sans méfiance ». Et vous consacrez de très belles pages à la vie animale. Est-ce que vous vous souvenez encore de certains animaux que vous avez connus à ce moment-là ?
Ah oui, les animaux, il est rare que je les oublie, vous savez. Ils ne méritent pas jamais d'être oubliés. Qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Eh bien, vous nous parlez par exemple d'un crapaud qui chante le soir.
Oui, gros crapaud.
D'un gosier amoureux.
Un énorme crapaud. Ce n'était peut-être pas lui qui chantait, mais il était là tout le temps. Je ne l'ai pas vu chanter. Et je ne sais pas si c'était lui qui chantait. Mais c'était un fort, beau, confortable et énorme crapaud.
Oui, je l'ai aperçu et le son souvenir est toujours resté dans ma mémoire.
Vous pouvez nous dire ?
C'était en... Je situe bien parce que c'était la première quinzaine du mois de septembre 1938. Il y avait des risques de guerre à ce moment-là. Et je n'avais pas mes deux enfants avec moi, ils étaient restés au bord de la mer, donc nous étions libres.
À l'époque, les grandes vacances allaient jusqu'à la mi-septembre. En mai 1980, Madame Herblain, téléspectatrice et lectrice, est invitée à parler de Colette sur le plateau d'Aujourd'hui Madame. Et pour une bonne raison, il va de soi.
Il y avait un concert dans les jardins du Palais Royal, un concert de musique de la garde républicaine. Quand on a des risques de guerre, en général, on aime aller prendre le pouls dans Paris.
Et puis la musique militaire, ça
ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Ouais. Alors nous y sommes allés. Et puis, il y avait la musique. Et puis je marchais un peu et j'ai vu un énorme chat, un chat tigré, assis sur son derrière, très digne. Et il était tenu en laisse par une personne, naturellement. Alors j'ai regardé la personne, j'ai d'abord vu des pieds nus dans des spartiates, une dame assez dodue. Elle devait avoir près de 60 ans à ce moment-là, je suppose, en 1938. Hein. Des cheveux frisés, grisonnants, oui. Des yeux très fardés. Ça alors, le col, elle en usait, un visage qui n'était pas fardé, et des yeux magnifiques. Oui. Et ces yeux, ben, ils sont toujours restés dans ma mémoire. J'ai eu l'impression qu'ils étaient comme ceux du chat, mais il paraît qu'ils étaient gris. Pour moi, je ne sais pas, il me semblait qu'ils étaient verts.
Vous avez l'impression que Colette assistait comme ça au concert de musique militaire ?
Ah oui, et puis ensuite elle envoyait un billet dans un journal en racontant les passants, ce qu'elle avait vu, mais ses yeux... Alors, nos regards se sont croisés, je n'ai pas osé, j'ai peut-être fait un petit sourire, puis c'est tout, et je suis partie un peu plus loin.
Elle y a répondu, vous ne vous souvenez pas ?
Non, je ne crois pas, non. Elle observait, mais... Je me suis toujours souvenu de cette rencontre.
André Parineau.
Je voudrais savoir si certaines trouvailles que vous prêtez à Claudine vous sont personnelles. Par exemple, Claudine a inventé la pelle à griller le chocolat, la tarte aux épinards, que sais-je encore. Je pense que la petite Colette d'alors, c'est peut-être une idée à moi d'ailleurs, était tout à fait capable de vivre de cette façon et d'inventer ces choses. Est-ce exact ?
Inventer. Quand on pense que ça ressortit à une gastronomie campagnarde que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas. Comment la tarte aux épinards, la tarte à la citrouille, la tarte aux poireaux frais, la tarte à tous les légumes. Et quant au chocolat grillé, devant le feu de bois, ou le feu de charbon, je ne sais pas, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille. Le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
Je n'y manquerai sûrement pas. En tout cas, cela nous prouve que vous avez mis quand même une grande part de vous-même dans votre œuvre.
Je vous reproche d'aller prospecter des époques si éloignées dans ma vie, et par ça même si éloignées, de ma vie de maintenant.
Éloignée sans doute, mais où il y a déjà une part de Colette. Et je n'en veux pour preuve que certains extraits, par exemple l'arcade sentimentale, nous révèle une Colette plus riche, plus complexe, plus diverse. Une Colette sage d'abord. Si vous le permettez, je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans l'arcade sentimentale presque à la fin. Vous écrivez « Quand j'étais petite, une grande sagesse précoce m'envoya au plus beau de mes joies, plusieurs avertissements mélancoliques d'une amertume savoureuse au-dessus de mon âge. Elle me dit, vous pensez à une belle dame en blanc avec un diadème qui m'apparut parmi l'obscur feuillage du vieux noyer, pas du tout. C'était simplement, banalement, la voix secrète, une mobilisation presque douloureuse.
Si je vous interromps avant la fin de cet alinéa, mais je vous assure, je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres.
Vous rangez donc ce passage, comme vous le dites, dans la littérature, et je sens que chez vous, ce mot...
Et sans le moindre ménagement.
A un sens très, très péjoratif.
Oui.
Je voudrais être sûr, cependant, que la conclusion de ce passage, voyez-vous, où vous dites, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, Oh, souhaite d'arrêter le temps, souhaite de demeurer encore un peu pareil à toi-même. Ne grandis pas, ne pense pas, ne souffre pas. Souhaite cela si fort qu'un dieu quelque part s'en émeuve et t'exauce.
De la littérature encore.
Pardon, je pose un petit gémissement, mais comme je viens de vous le dire et que je ne me lasserai pas de le répéter, je supporte de plus en plus mal la littérature, quelles que soient ses sources et sa signature.
Je crois que vous êtes très sévère envers vous-même.
Ben pourquoi donc pas? C'est mon devoir. C'est mon devoir, c'est mon goût. D'être très sévère avec moi-même, il est bien temps.
Vous avez écrit aussi « La vie est un jardin où l'on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre ». Vous allez me répondre que c'est encore de la littérature.
Oui.
Mais cette avidité à vivre qui transparaît sous les mots exprime, je le crois, une autre part essentielle de vous-même. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus?
Sur quoi? Sur l'avidité? L'avidité. Une avidité bien modeste. Et qui se contentait, si on l'eût laissé en repos, et qui se contentait de vivre pendant les mois que je faisais le plus long possible, dans une campagne extrêmement modeste, là-bas au Mont-Boucon.
Dans cette phrase, vous dites tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre. Croyez-vous vraiment qu'on puisse tout quitter et tout reprendre? Pourquoi avez-vous écrit cela?
Oh non, je ne pense pas une minute maintenant que je crois penser tout de même encore sainement. Je ne pense pas ni qu'on puisse tout quitter, ni qu'on puisse ni reprendre. Et je n'avais pas un si grand appétit, ni une si grande infidélité à ce que j'aimais.
Et si vous vous posez la question, toutes les musiques sont celles de l'anglais d'origine syrienne, Thomas Hades, pour le film très académique et passablement ennuyeux, Colette, sorti en 2018.
Bonjour Pauline.
Bonjour madame.
Ah, quel temps fait-il Pauline?
Il fait très beau madame.
Oui, combien de degrés?
9 ce matin.
Oh, pas beaucoup pour moi. Oh là là, enfin.
En 1952, la cinéaste Yannick Bellon, grande figure du féminisme et de la libération des femmes, a longuement filmé Colette dans son intimité chez elle. Elle y reçoit ses amis, dont Cocteau. On l'entend ici avec son dernier mari.
Bonjour.
Bonjour.
Bien dormi?
Comme d'habitude.
Tu as entendu ce matin de bonne heure citer les Martinets?
Les Martinets, les enfants.
Mais le jardin est déjà plein d'enfants.
Oui.
Je te sers?
C'est les Martinets, les enfants, ce qu'il fait beau. Quelle chance.
Le courrier est là?
Oui.
Il y en a beaucoup?
Bien assez.
Dis-moi, à propos de courrier, il faudrait tout de même prendre une décision pour ce film qu'on te demande. Tu sais, le film sur toi, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, j'en pense que j'essaie d'être photogénique.
Oui, mais tu sais, le ministère des Affaires étrangères insiste beaucoup, il faudrait... Tu sais comment on veut le faire?
Le ministère des Affaires étrangères a trop de tact pour insister beaucoup si je lui disais non.
Oui, je sais bien. Tu sais comment on veut le faire, hein? D'après tes maisons.
Non.
D'après tes maisons... D'après les maisons où tu as travaillé, où tu as vécu.
Mais moi, ça n'est pas possible. Ce sera un film interminable. J'ai changé de domicile 14 fois et sans compter les maisons de campagne.
Oui, je sais bien. Mais enfin, ils ne les prendront peut-être pas toutes.
Non, pas toutes.
Tout de même. Comment vois-tu ça? Comment est-ce qu'il faudrait le faire, d'après
je
toi?
Je ne le vois pas. Si je le voyais trop bien... J'aurais la force et le courage plutôt de refuser, mais il faudrait dans tous les cas respecter la chronologie et commencer par ma maison natale.
Dans le même temps, dans son appartement dont les fenêtres donnent sur le palais royal, Colette fêtait, oh sans fièvre, son 80e anniversaire. Qui a oublié ces images successives que Colette, à travers ses livres, nous a données d'elle, depuis Saint-Sauveur en Puisaye, de Claudine en Claudine, jusqu'à la grande Colette d'aujourd'hui. Sur les murs de la chambre où la maladie la tient immobile, Colette peut retrouver tous ses souvenirs d'une vie extraordinaire en attendant d'y en ajouter d'autres. Car j'ai 80 ans, dit-elle avec humour, et je n'ai jamais formé autant de projets. Le plus urgent me semble même d'écrire quelques pages sur l'amour. Bien sûr.
Auréolée, fêtée, célébrée en janvier de cette année 1953, elle délivre à la jeune télévision française un message de Noël aux Français d'un peu partout, elle qui ne peut plus sortir de chez elle.
Mais c'est que j'ai vu tant de Noël, tant et tant de Noël. Noël en Bretagne, par vent d'ouest furieuse et tiède, une mer baveuse, des vagues presque noires qui sautaient comme des chevaux par-dessus le petit mur qui prétend à Saint-Malo protéger la chaussée du Sillon, une tempête qui sentait le printemps 3 mois trop tôt, et la pluie tiède dessalait les prés de mer. Noël de neige en Suisse, entre les murs épais d'un hôtel, les déguisements de papier plissé, rouge, violet, vert, les barbes de coton, les perruques en paille de bois, la crèche en carton moulé, les pampilles, les étoiles de clinquant, et debout, dans le hall, un arbre sévère, haut, rigide, un noir sapin, immobile sous les feux, attrister la fête.
André Parineau en 1982.
Elle avait à la fin de sa vie un formidable besoin de dignité, non pas d'honneur, mais elle était dans une saison de sa vie. Elle disait d'ailleurs, il faut vivre les saisons de sa vie. Chaque saison est différente. Elle était dans une saison de sa vie où elle avait besoin d'honorabilité. Dans nos entretiens, c'est un mot qui revient au moins 20 fois. Ce n'est pas honorable, disait-elle en parlant d'un tel. Ceci est honorable. Ne parlez pas de cet événement de ma vie, il n'est pas honorable. Elle le disait souvent. Elle savait se juger. Elle avait cette espèce de réflexe, j'allais dire de vieille paysanne, qui a des opinions, qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ce qui comptait, c'était le plaisir des yeux, le plaisir de la gourmandise, le plaisir de la conversation, le plaisir d'écrire, car malgré l'accouchement de l'écriture, elle aimait écrire, c'était devenu une seconde nature. Et je pense que, malgré les difficultés et les batailles qu'elle a menées toute sa vie, je ne crois pas la trahir en disant que la fête a dominé dans sa vie.
En 1980, Jenny Bellet a conçu un spectacle autour du texte et de la correspondance de Colette, notamment des lettres à sa fille et à son gendre. Elle en dit un extrait dans Aujourd'hui, Madame.
Vous qui vivez auprès d'elle, vous savez combien je la vois rarement. Combien sa présence m'enchante, et je suis touchée que vous m'invitiez à venir la voir. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi. Mon cactus rose va probablement fleurir. C'est une plante très rare que l'on m'a donnée, et qui, m'a-t-on dit, ne fleurit sous nos climats que tous les 4 ans. Or, je suis une très vieille femme, et si je m'absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois. Veuillez donc accepter, monsieur, avec mon remerciement sincère, l'expression de mes sentiments distingués et de mon regret. Ce billet, signé Sidonie Colette, née Landois, fut écrit par ma mère à l'un de mes maris, le second. L'année d'après, elle mourait. Je suis la fille de celle qui écrivit cette lettre, et tant d'autres que j'ai gardées. Elle projetait et entreprenait des voyages, mais que l'éclosion possible, l'attente d'une fleur tropicale, suspendait tout. Et faisait silence, même dans son cœur destiné à l'amour. Je suis la fille d'une femme qui, 20 fois désespérée de manquer d'argent pour autrui, courut sous la neige, fouetter devant, crier de porte en porte chez des riches. Qu'un enfant, près d'un âtre indigent, venait de naître, sans l'ange, nu, sur de défaillantes mains nues. Puissais-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme, qui penchait, tremblante, toutes ses rides éblouies entre les sabres d'un cactus. Une telle femme qui ne cessa elle-même d'éclore infatigablement pendant trois quarts de siècle.
Plus j'avançais, plus je découvrais une femme qui me semble avoir été pleinement femme et qui a vécu toute sa vie avec beaucoup de passion, de curiosité, avec des moments graves, des moments gais. Il me semble qu'elle n'a jamais regretté les choses. Et je crois que la jeune fille qu'elle a été aurait été contente de la dame qu'elle est devenue après, je
pense. Et la dame qu'elle est devenue n'aurait pas renié la jeune fille.
Ah, elle n'a jamais renié la jeune fille qu'elle a été.
Après Joyeuse Pâques, voilà dans Chérie.
Oui, c'est la même direction d'ailleurs, toujours Monsieur Rosière.
Quel est votre rôle dans Chérie ?
Eh bien, je suis la mère de Chérie. Cette mère qui n'est pas très maternelle et qui éprouve vis-à-vis de son fils des sentiments plutôt d'affrontement que d'amour.
Autre comédienne plus connue, celle-ci. Peut-être l'avez-vous reconnue par sa voix ? Indice, c'est elle qui, dans le film de Pierre Tchernia, Le Viager, apporte à chaque Noël des boudins blancs pour faire original.
Vous lisez beaucoup, je le sais, vous me l'avez confié tout à l'heure. Vous avez beaucoup lu sur Colette avant de jouer.
Vous savez, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu des difficultés, alors j'ai vendu tout ce que j'avais, sauf les œuvres complètes de Colette.
Il faut dire aussi que vous avez, au cinéma, eu votre premier rôle dans Mitsou de Colette.
Un premier grand rôle, c'est un pas mon grand premier rôle, mais un premier grand rôle, oui, dans Mitsou, qu'interprétait Daniel Delorme, et j'étais sa petite amie, petite chose d'ailleurs. Et oui, j'ai failli connaître Madame Colette et elle est morte quelques temps au début des prises de vue. J'ai bien regretté.
Elle a eu une activité très éparpillée. Elle a été actrice, elle a été écrivain, elle a été mime, danseuse nue, esthéticienne.
Oui. Puisque vous connaissez mon violon d'ingre, elle a été esthéticienne. Mais c'est une femme multiple, elle s'intéressait à la vie et puis aux femmes. Vous savez, je crois qu'elle avait vraiment un intérêt profond pour les femmes et ce qui fait leur féminité, donc leur beauté, entre autres choses, et puis leur cœur.
C'était quelqu'un qu'on ne peut pas faire rentrer dans un moule, n'est-ce pas ? Elle était inattendue. C'était quelqu'un qui vous surprenait. C'était quelqu'un qui existait par elle-même. Et je crois que c'est un assez beau compliment. Je veux dire que jusqu'à la fin, elle est restée impériale. C'était quelqu'un plein de charme et plein de rudesse, d'une grande truculence, mais en même temps, sachant parfaitement ce qu'elle voulait, ne se laissant pas bousculer, traitant les choses à leur valeur réelle, le contraire, si je puis dire, d'une intellectuelle. Elle était toute nature. Et quand je lui posais des questions un peu trop sophistiquées, elle disait « Cessez de couper les cheveux en quatre. La vie, c'est pas comme ça. » C'était quelqu'un de chaleureux. Je la comparais à une chatte. Un être qui se laisse caresser, la chatte, mais qui peut vous envoyer un coup de griffe, qui n'accepte pas un certain nombre de familiarités, qui choisit ses interlocuteurs. Je crois que Colette, c'était ça. Un félin magnifique. Elle avait cette morale de la nature. Et bien sûr, il y a une équivoque entre la nature et la pensée philosophique ou la pensée morale. Elle était plus forte que l'intellectualisme et que la philosophie. L'amour de la vie l'a portée. Alors bien souvent dans sa vie, il y a des actes et des attitudes qui paraissent très équivoques, que l'on peut qualifier d'amoralisme. Elle pouvait aimer deux hommes à la fois, ou elle pouvait avoir des sentiments envers une femme et envers un homme. Elle les a racontés dans ses livres. Alors bien sûr, par rapport à la morale courante, par rapport aux religions, c'est tout à fait amoral. Par rapport à la vie, je ne suis pas très sûr que ce soit amoral.
On a beaucoup parlé de son amour pour les chats, et elle disait que pour la femme comme pour le chat, le mensonge est la première parure. Et elle disait également qu'au contact des chats, on ne peut que s'enrichir.
Je ne regrette pas d'une certaine manière de ne pas l'avoir rencontrée, parce que rencontrer un individu, c'est être amené à le juger. Et c'est tout à fait faux. Et il est intéressant, d'après l'œuvre qu'il est, surtout pour un écrivain. Alors là, on vient d'entendre des choses qui sont passionnantes, mais à quoi bon ? C'est l'opinion d'une personne, c'est pas ça. Et ce qu'il faut, c'est aimer Colette pour son œuvre. Et la personne, elle est ce qu'elle est, elle a suivi son destin, probablement comme nous tous, comme elle a pu, contrairement à ce qu'on dit, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on est tiré par des ficelles dont on ne connaît pas bien le montreur, n'est-ce pas ? Ce qui est intéressant, c'est de se passionner pour l'œuvre de Colette. Il ne faut pas connaître les individus.
C'est donc avec la vie de Tetlore, en 82, que va presque se clore cette seconde visite à Colette sur Radio Alpa. Retrouvez-la, comme la précédente, en podcast sur le site radioalpa.com. Mais nous ne quittons pas sans musique celle de Thomas Hadès, ni sans la voix de Tetlore. Puis, fin janvier dernier, sur France 24, celle de l'autrice Emmanuelle Lambert. Bonne semaine à toutes et tous, à l'écoute de Radio Alpa, et surtout, ne vous privez pas de chérir votre liberté.
Mais c'était une époque où si on pouvait s'accomplir largement. Il y avait moins de ségrégation que maintenant, j'ai l'impression.
Je pense que oui, je pense que cette maxime qui est « je veux faire ce que je veux » qu'on prend parfois un peu à la légère, mais en fait, elle est très forte. C'est pas toujours facile dans une société qui ne vous ouvre pas les bras de parvenir à faire ce qu'on veut. Et elle, au départ, c'était pas gagné. C'était une femme provinciale qui venait d'un milieu déclassé. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de relations, il n'y avait pas de biens. Et elle a réussi à faire absolument ce qu'elle voulait toute sa vie.